Bonjour et bienvenue dans Certain Lama Deauville, l'émission qui débriefe les films sur tapis rouge tous les jours de la semaine. Quatrième épisode de nos pérégrinations au Festival du cinéma américain de Deauville 2020. Je suis Thomas et avec moi, toujours en léger différé depuis La Villa Claque, les ados tourmentés de la critique. Thierry, toujours.
Ah, c'est chiant parce que vu que c'est la même intro qu'hier, je peux plus faire la blague là. Je me suis dit que tu vas me lancer sur un autre truc que le différé.
Oui, mais on est toujours en léger différé en fait, parce qu'on n'est pas vraiment en direct.
Thierry, est-ce que tu suis ton podcast sinon?
Non, mais t'as pas compris. T'étais pas là hier soir.
Surtout que c'était il y a deux jours en plus, donc même toi, t'es décalé.
Donc j'étais là.
Voilà. Pas si ado que ça.
Laissez-moi tranquille.
Le sénile, donc, de la critique, Thierry. Bon, Marwan.
Yo, mec.
Yo, mec. Oh là là, oui. On a un jeune des années 90.
C'est la soirée de la détresse.
Le Buffalo Soldier. Donc
les boomers de la critique, donc. Valentin aussi.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'il y a, tes battes, t'es dans le vent, toi?
Et ils sont revenus en pleine forme après s'être reposés et être gonflés à bloc. Margot de On se fait un ciné.
Bonsoir. De toute façon, quand on n'est pas là, heureusement qu'on est là avec Gabin pour relever un peu le niveau de ce podcast.
C'est bien ce que je dis, c'était pas là hier.
Et pas très sympa.
Gabin de Cinématrack et Silence Moteur Action.
Coucou.
Coucou. Nous reviendrons ensemble sur les films projetés ce mardi 8 septembre, cinquième journée du festival. Encore une journée thématique, j'ai l'impression, autour des premiers films et des films de jeunesse.
T'es sûr ?
Films de...
Et des films peut-être pour continuer à faire la sieste. Je ne sais pas, on va voir, c'est à vous de me dire. Au programme aujourd'hui, Holler de Nicole Riegel, Giant Being Lonely de Greer Patterson, Don't Tell a Soul d'Alex McAuley, Sons of Philadelphia.
Ça avait l'air bien.
Ouais, Samson Anarchy, c'est autre chose. Sons of Philadelphia de Jérémy Guèze. Quatre films relativement courts. Et je crois que c'est tant mieux, si j'ai bien compris les avis, les sentiments de chacun. Nous allons voir ça tout de suite. Pas d'extrait, dis donc,
aujourd'hui.
Selon
nous, c'était quatre films relativement longs, hein, tu sais.
Ouais, on n'a pas d'extrait.
Trois pour toi, Thierry.
Ouais. T'es nul.
On commence tout de suite. Oh là là, tout de suite. Ça, non, les jeunes,
c'est
là, on se calme.
On peut dire deux. Hein.
Là, ça y est. Là, hier, c'était les profs. Là, maintenant, c'est les mauvais élèves, c'est les bad boys. Là, ça y est. On commence tout de suite avec les films de la compétition de ce matin. Holler de Nicole Riegel. Avec Jessica Barden dans le rôle de Ruth, une jeune lycéenne en fin de cycle. Qui est obligé de travailler avec son frère et de collecter des déchets, des canettes pour subvenir aux besoins de la famille. Une œuvre poignante, une œuvre pleine de jeunesse, une œuvre pleine d'énergie. Avez-vous été broyé, recyclé par cette œuvre? Est-ce que ça sent le neuf ou au contraire? Marwan,
je vais vous dire un truc. Ouais, je ne pensais pas voir le meilleur film de la journée, bah, le matin, quoi. Enfin, la première séance. Parce qu'en réalité, c'est un film qui, je trouve, navigue entre deux eaux. C'est ce côté où on suit l'aventure d'une jeune étudiante, enfin, lycéenne, qui, finalement, n'a pas les moyens, qui n'a plus de parents dans le sens où son père est mort et que sa mère est en...
On essaie
de la foutre en désintox, quoi. Ouais. Et donc c'est une question de survie, c'est un jeu de survie. Et encore une fois, c'est un film où même dans la forme, dans la manière dont c'est amené, on a l'impression de voir quelque chose qu'on verrait encore une fois dans les films de Sundance, dans les films un peu artistes. Et ce côté, on veut mettre en avant des gens qui n'ont pas les moyens et où la société tout est contre eux, donc contre elle. Et c'est cette idée de savoir pour celles et ceux qui peuvent, et donc c'est le personnage de Ruth, qui peuvent réussir, mais qui ont beaucoup plus d'obstacles que les autres, comment vont-ils réagir par rapport aux influences extérieures et par rapport à leur situation. Et pour le coup, je l'ai trouvé très intéressant dans sa manière de filmer son personnage, qui, elle, est assez fabuleuse. Parce que Jessica Barden a joué dans, par exemple, The End of the Fucking World sur Netflix. Et c'est une mini-série très, 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 très intéressante. Et je trouve qu'elle développe son jeu. Et pour le coup, je pense vraiment que c'est un film plaisant pour ses acteurs, encore une fois. Et pour aussi sa manière de jouer beaucoup avec le clair-obscur, avec l'obscurité, avec ce ton bleuté qui va donner, je trouve, une certaine vieillesse, une certaine vieillesse par rapport à cette ville qui finalement la situation a lieu en ce moment. Et en gros, on a l'impression que ça, que la ville date des années 80.
Et oui, on s'est d'ailleurs fait la réflexion, c'est un des premiers films qui montre Donald Trump.
Oui. C'est ça, oui. Et on en a vu deux aujourd'hui.
On en a vu deux qui font référence au président américain actuel.
Ça fait référence aux villes minières, en fait, qui sont totalement abandonnées.
C'est ça, ouais.
C'est pour ça que cette ville est plongée dans les années 80, parce qu'elle n'a plus de richesse depuis cette période-là et qu'elle n'a plus rien, quoi.
Donc, oui, il parle de la délocalisation, quoi. Tu vois, donc à partir de là, c'est le sujet, quoi.
Mais du coup, moi, je trouvais intéressant, c'est que ça reste un film d'émancipation assez classique dans sa forme, même dans ce qu'il raconte. Mais le personnage de Ruth est hyper attachant et d'autant plus dans sa manière de survivre. Du coup, on part dans le monde des ferrailleurs et de ceux voilà, qui démantèlent des usines, qui récupèrent du fil de cuivre pour pouvoir revendre ça. Et du coup, c'est des milieux qu'on ne voit pas souvent au cinéma. Et encore moins une jeune fille, en fait, dans ce genre de milieu-là qui essaye de s'en sortir en faisant ça. Et je trouvais ça, franchement, pas mal du tout. Et c'est vrai que par rapport aux autres films, bah c'est meilleur.
Oui, mais dans les films de la journée, mais sinon lui-même en tant
que
tel,
lui-même,
tout seul.
je le trouve assez bon, alors que pour le coup c'est vraiment une histoire vraiment classique en toute somme, quoi. On sait exactement où ça va, on sait comment ça va finir, mais c'est assez plaisant à regarder.
Gabin?
Non, bah, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment, parce que le film est assez classique en soi dans sa structure, dans sa manière de raconter l'histoire, mais j'apprécie vraiment cette manière de se dire, voilà, on est dans une petite ville où on a l'impression que le temps s'est arrêté, on est en plein hiver, donc il y a la neige, il fait froid, voilà, tout est en pause, on voit à quel point ça semble être une ville pauvre quand même. On a toujours ce grand écart entre justement les discours de Trump qu'on a à la télé où lui il vous dit je vais vous donner du boulot, et derrière on voit que les usines elles vont fermer parce qu'on délocalise les activités. Donc bon, c'est assez frappant quand même. C'est classique, c'est la réalité qu'on connaît, mais ça reste toujours assez important à revoir. Et donc on voit du coup le personnage de Roof se plonger dans ce milieu des ferrailleurs et donc dans l'illégalité, puisque ce qu'ils font n'est pas très légal, d'aller démanteler des usines comme ça la nuit. Et donc le ferrailleur en question, c'est Austin Amelio qui joue Dwight dans The Walking Dead, l'un des sbires de Negan qui s'émancipe et qui part ensuite dans Fear the Walking Dead. Voilà, je raconte toute l'histoire de The Walking Dead, c'est passionnant. Donc ça me fait enfin plaisir de le voir dans autre chose que dans The Walking Dead. En tout cas, son personnage m'a plutôt bien intéressé dans ce film-là aussi. Et donc, c'est aussi ce portrait de famille vraiment complètement désemparé entre voilà, le frère et la sœur qui essaient de se supporter l'un l'autre. Du moins, le frère essaie de chercher ce qu'il y a de mieux pour sa sœur et de faire en sorte qu'elle ne s'embarque pas dans tout ce côté, dans toute l'illégalité, du moins dans ce que lui fait. Et au milieu de ça, leur mère qui est complètement névrosée.
Il y a l'image du mur aussi, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de plans très parlants. Hein. Y a pas mal de... Ben, c'est peut-être le film qui fait le plus de cinéma, j'ai envie de dire, aujourd'hui. C'est faut être réalité, mais c'est un film qui fait des images. Quand on a des plans de coupe, souvent on a des symboles. Le serait-ce que, par exemple, on a un chat qui passe. Alors, on se dit, c'est un chat qui passe. Non, c'est un chat qui passe sur une barrière et sur les pointus de la barrière. Donc, il est déjà en équilibre, en train d'essayer de passer un obstacle compliqué. Rien que ce passage-là raconte quelque chose. Et c'est plein de passages comme ça. L'ouverture du film, elle se bat. Enfin, elle court. Elle se vole. Elle se sauve parce qu'elle a volé des poubelles, quoi. C'est vraiment... On en est là. C'est quelqu'un qui est au bout du rôle, qui est au bord du gouffre, hein, et qui se bat et... pas forcément pour avoir quelque chose de sympa au bout, quoi.
Je trouve aussi que la manière dont c'est filmé correspond au sens où visiblement c'est tourné en pellicule et avec de la pellicule qui est dans un état un petit peu vieux, ou du moins on voit qu'il y a un grain à l'image, qu'il y a des taches qui viennent parasiter très souvent l'image, et donc je trouve que ça correspond vraiment à ce cinéma un peu à l'arrache aussi, à l'image de notre épisode, qui correspond à la situation des personnages. Je trouvais ça, du coup, c'est un peu... peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, je trouve que ça correspond à l'idée.
Oui, ça colle bien avec cette personne aussi. Enfin, cette Ruth qui veut aller... Enfin, son frère veut qu'elle aille à la fac, elle veut pas. Et puis même si elle y allait, elle pourrait pas la payer. Enfin, et donc, d'où ce boulot. Donc cette image de mur face à elle et de blocage, de manque de perspective d'enfermement.
Dans le dans les influences qu'a cité donc du coup la réalisatrice au début dans son petit aparté, elle a parlé de Wanda de Barbara Loden. Je pense que c'est l'occasion aussi de faire une légère recommandation sur ce film qui date de 1970, qui était considéré comme l'un des premiers films ouvertement féministes, enfin, en tout cas qui a eu un succès grâce à ça. Et alors ça suit pas exactement les mêmes trames, mais on a quand même beaucoup de similitudes avec justement une fille qui vient d'un milieu, donc là c'est le milieu minier, qui se retrouve voilà dans une espèce de misère assez assez particulière, qui va justement commencer à s'émanciper parce qu'elle découvre la criminalité aussi d'une certaine façon, et qu'on lui dit bah toi aussi tu peux faire ça. Du coup elle va devenir de plus en plus libre, et ça parle aussi de ça en fait, de cette façon de prendre sa vie en main par elle-même et non pas par son frère et non pas par tout ça. Et c'est aussi en soi, ça rejoint du coup ce que disait Margot, pardon. C'est que c'est un portrait de femme assez fort.
Portrait assez fort. Excellent premier film, du coup, de Nicole Riegel. Ou Riegel, peut-être.
Tu vas fort avec l'excellent. Ouais. Je trouve que tu vas faire avec l'excellent.
Excellent.
C'est gros intéressant, mais, oui, bon. Mais à faire, ouais, on va pas encore faire ses preuves. Donc faire un truc encore plus intéressant, encore plus impactant.
Mmh. Bon, peut-être un schéma un peu trop classique pour un film qui pourrait le dire d'une manière un peu plus détonnante.
Mmh. Et c'est bien parce
mais
que
ça reste le meilleur film de la journée.
Oui. Et puis en parlant de schéma classique, ce qui est bien, c'est que le prochain film, ça sera pas du tout le cas.
Mais justement, on y arrive.
Je voulais faire la transition, tu vois.
Alors, le précédent, là, donc, Holler faisait 1h30, ça va. Là, on arrive sur le film le plus court de la compétition, 1h18.
Ah. Merci.
Giant Being Lonely, de Greer Patterson. Adam, Bobby et Caroline sont en classe de terminale et ils vont vivre leur jeunesse, leur vie. Adam et Bobby jouent au baseball, ils se ressemblent beaucoup et ils veulent tous les deux sortir avec Caroline. Voilà.
C'est un film qui était très attendu. Moi, j'avais très très envie de le voir. J'étais même très enthousiaste. Hein. Je suis parti un peu avant tout le monde pour courir vers l'OCID et m'apercevoir du coup devant plein d'espoir que je n'avais pas mon pass, un peu comme le premier jour.
Mais attendez, ça nous rappelle pas l'histoire.
Du coup, ben, il y avait pas Kirk Douglas, l'endompté, qui passait, donc je suis rentré à l'appart et je n'ai pas vu le film.
Et il a dormi.
À vous les studios.
Ok, donc tu vas merci dans le bureau Thierry du proviseur pour cette absence. <c'est bien. rire> Margot, toi, tu avais ton pass, toi.
J'avais
tu
mon pass.
Tu es une bonne élève.
J'avais mon pass. Était-ce une bonne idée de l'avoir à ce moment-là?
Ah. On va se demander si Thierry l'a pas fait exprès, peut-être.
Oui, peut-être. Il était peut-être voyant, sans le savoir. Non, alors, pour le coup, à la base, le film, c'est un petit peu aussi un film lambda, vraiment sur voilà, l'adolescence, les problèmes que tu peux avoir avec tes amis, avec tes parents, les problèmes d'amourette, etc. Le problème de ce film, qui dure 1h18, on a l'impression qu'il dure 3 heures, tellement il est totalement décousu dans sa narration, même dans la présentation des personnages, si bien que pendant 3 quarts d'heure, on se demande qui est qui pour se rendre compte finalement que c'est pas du tout la même personne.
Oui, alors parce que j'ai pas dit, mais Adam et Bobby sont joués par Jack Irving et Ben Irving,
qui sont frères
et qui se ressemblent énormément.
Voilà.
Coucou Bobby.
Mais du coup, outre ça, il essaye de raconter un peu une histoire sur du coup Adam, dont le père est du coup le coach de l'équipe de baseball et qui se fait tourmenter par le père parce que le père veut évidemment qu'il soit le meilleur, ce qui n'est pas totalement le cas. Et quand le père n'est pas content de ses performances, il soit le frappe. On ne voit jamais totalement. En fait, c'est ça le problème. On voit jamais rien du film. Genre. On voit jamais quand il se fait tourmenter par son père. On sait qu'il y a de la violence en fait dans le film, mais en fait il ne le montre jamais. Et du coup, il y a une petite histoire derrière qui est quand même beaucoup plus intéressante que le film en soi. C'est-à-dire que, en gros, le réalisateur a fait ce film. Alors, faut savoir que les 3 acteurs principaux qui jouent dans le film sont ses meilleurs amis. Et en fait, ces 4 personnes étaient dans la même école, ont fait la même promo, et il y a un des élèves de cette promo qui, bon, du coup, on va un peu spoiler la fin.
Qui a fait les mêmes choses que les persos.
Oui. Alors, pas totalement, du coup.
Pas de la même manière.
Pas totalement de la même manière.
On l'a pas appris le jour même, mais un peu plus tard.
Voilà, c'est ça.
Il y a un drame qui s'est passé. Voilà, il y a un drame à la fin.
Qui s'est passé qui, si on prenait ce drame à la base et qu'on avait fait un film, oui, on aurait pu parler, du coup, de cette pression la pression parentale qu'il peut y avoir sur la réussite des enfants, etc., sur les violences que peuvent subir les enfants. Et du coup, dans le film, on voit très bien que les trois enfants ont chacun des problèmes familiaux, que ce soit celui avec son père qui est coach, qui voilà, doit être à la hauteur des attentes. Bobby, dont la mère est partie quand il était très jeune, ou même quand, avant qu'il soit né. Non, bah non, c'est pas possible. c'est pas possible.
Bah, il a un gros problème, pardon. Bobby. Donc.
oui. Non, mais du coup, et le père est totalement... On sait pas trop, mais il doit être totalement calmé, il ne fait rien de la journée, tout le temps dans le fauteuil. Bref, il s'intéresse pas à son fils, puisqu'il ne vient pas au match de baseball. Et on a la jeune fille Caroline, dont on comprend très vite que ils sont, la mère aussi a un petit peu des problèmes avec la fille. Mais du coup, en fait, ces problèmes-là, on ne les voit jamais totalement. On en entend un petit peu parler. Après, sur 1h18, on ne peut pas développer ça du tout. Donc, ce qui fait qu'on reste un peu sur une fin. Et puis, y a zéro mise en scène.
C'est des petits extraits, c'est des moments très courts.
Oui, hein. c'est des moments très courts qui, franchement, on regarde et il nous faut un peu de temps pour comprendre vraiment ce qui se passe dedans. Il n'y a pas de début, il y a une fin, plus ou moins. Et puis, même si les acteurs me sont très sympathiques, on dirait que le film durait 4 heures. C'était pas possible.
Marwan.
Le gros problème du film, c'est qu'il voulait se faire... étonnant ou pseudo-litchien dans cette idée de personnages avançant toujours dans des trames fantasmagoriques. Donc, et ça pouvait être intéressant, sauf qu'en gros, chaque histoire avait l'importance d'une intrigue secondaire d'un film. Et en gros, ça avait aucune importance, on s'en moquait un petit peu. Et en plus de ça, j'avais l'impression que le réalisateur voulait un peu mélanger les pistes en faisant en sorte que les deux acteurs qui se ressemblent beaucoup aient la même conquête, de ce que j'ai compris.
Et mais c'est ça, c'est qu'ils se tournent autour, on les suit, au début on en suit un, on croit qu'on suit le même.
Et puis après ils se rencontrent autour d'un frigo et tu te dis c'est pas possible.
C'est pas possible, mais c'est à la moitié du film ou le tiers du film et tu dis ah mince, du coup qu'est-ce que je regarde et là donc on essaye de comprendre, on s'aperçoit que... Mais ce qui explique en fait qu'il y en a un qui est tout timide et que l'autre... Il se tape tout ce qui bouge. Et ouais, ils ont deux caractères différents. On ne sait pas trop où ça va. Il n'y a pas vraiment de... Il faut... Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Il n'y a rien. C'est juste des extraits comme ça. On a l'impression que c'est un puzzle. Et sans savoir quel paysage on doit reconstruire ou où on doit aller. Et sans accroche vraiment, quoi.
Pour le coup, ça me rappelle... Excuse-moi, je termine rapidement.
Tout le monde a décidé de me couper aujourd'hui, en fait.
Désolé. Pour le coup, ça me rappelle le premier sketch de d'Eladon Coppola dans le film. C'est qu'en fait, tu as une histoire qui est un peu lambda avec deux, trois petites punchlines qui peuvent être sympathiques, mais qui sert un peu à rien pour qu'à la fin, il y ait une chute. Et moi, je pense que c'est un film à chute aussi. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en gros, on te montre des personnages avec des problématiques qui peuvent être intéressants, mais c'est à peine creusé, pour qu'à la fin, t'aies la conséquence, la grosse surprise.
Moi, je pense, alors après, c'est une supposition comme une autre, mais donc c'est une histoire vraie, on ne le sait jamais que c'est une histoire vraie. C'est en fait que j'ai lu un article par rapport, parce qu'il était passé à la Biennale de Venise l'année dernière, les acteurs étaient là et ont évoqué vite fait que c'était un fait réel. Ils ont juste donné une ville et une date. J'ai dû chercher la ville et la date et rajouter plein de mots-clés pour trouver cette histoire. Et comme le réalisateur a fait partie de cette histoire, je pense que c'est peut-être plutôt un film pour lui plutôt que pour les autres, en fait. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi brouillon. Je pense pas qu'il cherchait vraiment à faire un film à montrer au grand public. Il l'a montré au grand public, mais je pense que principalement, la première chose qui lui venait en tête, c'était vraiment, je pense, pour lui et pour les acteurs qui était là plus que pour vraiment faire un film de cinéma.
Oui, pour exorciser.
Ouais.
Et d'autant que les acteurs sont des amis du réel. Hein. Ça s'est fait un petit groupe, c'est entre copains. Hein. Gabin. Merci Gabin.
Merci Garand, mais comme ça a été dit, en fait, on comprend pas où le film veut en venir, mais dès le début, c'est vraiment dès les 10 premières minutes, on est paumé, mais d'une puissance... C'est déjà rien que la première scène, c'est donc une scène du coach qui braille sur ses joueurs au baseball. Puis après, on a une citation, je sais plus quelle citation, du genre « Oh là là, machin, on va jouer au baseball ». Enfin, déjà, tu as la citation, tu sais pas trop ce qu'elle fait là, elle t'explicite pas tellement ce que c'est non plus. Donc le titre « Giants being lonely », donc les Giants, ce sont les membres de l'équipe de baseball, donc se sentent seuls. Donc c'est pour ça qu'on voit autant les... ces trois ados déambuler comme ça, sans que ça n'ait vraiment de sens. Ils passent leur temps... Donc il y en a un qui vit seul, donc il dort dehors. Enfin, il passe toute sa journée dehors, il part partout, on sait pas ce qu'il fait. On sait pas... Enfin, voilà, on ne sait pas, on ne sait rien. Et c'est tellement décousu que ça ne nous aide pas. Et comme tout le monde l'a dit, en fait, je comprends toujours pas où on en vient, en fait. Et je trouve que c'est un peu un film de petit malin dans le sens où voilà, ils essaient d'avoir une forme un peu travaillée, un peu... Enfin, un peu plus clipiesque, voilà, avec des ellipses, des mouvements de caméra un petit peu. Hey, on a regardé Euphoria, on a voulu faire des trucs un petit peu cool, mais ça marche pas du tout. Et enfin, voilà, c'est, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui croit qu'il sait mettre en scène de manière un peu originale, mais en fait, non, enfin, tout tombe à plat. Et voilà, ça m'a ennuyé, puissance, un million.
Au début, je croyais que ça allait parler de géants. Et après, j'étais déçu.
Non, j'ai envie de dire que c'est le Knives and Skin de cette année, mais sans la partie fantastique.
Valentin, un petit mot.
Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable sur ce coup-là. Donc, je n'ai pas quand même été convaincu par le film en tant que tel. Et tant qu'on parle du baseball et de quelque chose qui est à peu près réussi dans le film, c'est ça. C'est tout le côté sportif, moment de grâce après avant un bon mouvement. Le côté le côté d'échauffement sur son banc, l'entraîneur qui galvanise ses équipes et on y croit, c'est quelque chose qui pour moi faisait très réel,
ouais.
Pour un qui a un peu de vécu pour le coup, qui était très réel, qui marchait très bien, qui avait très bien marché sur moi à ce moment-là, c'était à peu près au milieu du film.
Ok, donc c'est 20 secondes du film
et... Ah, mais il y a un moment qui est bien réussi.
Oui, oui, non,
des lancers qui étaient bien faits, donc en pause, le moment de grâce qui arrive juste avant le coup parfait qui arrive plusieurs fois, et pour le coup, c'est les moments où le film se réveille un peu. C'est-à-dire que si le mec voulait filmer du baseball, bah, alors est-ce qu'il voulait vraiment filmer l'histoire que disait Margot, ou est-ce qu'il voulait filmer du baseball? Mais de mon côté, quand
il met un peu des deux, hein.
À mon avis, il a pas filmé beaucoup de baseball.
Oui,
hein.
Bah, non, plus, c'est
les parties, les quelques parties de baseball qui étaient dans le film étaient vraiment convaincantes. Et on est...
Ouais, on voit trois lancers.
Après,
hein.
Oui, non,
ouais,
après, il y a une ou deux scènes sympas, hein, par exemple.
On voit trois lancers, mais il y a tout ce qui va autour, quand même. Les équipes qui se galvanisent entre elles, la rivalité aussi entre les joueurs qui se sent quand même beaucoup, et l'appréhension pour certains qui sont en train de perdre, le côté, la défaite très triste pour d'autres qui sont violents, d'autres qui savent plus quoi, qui sont abattus sur un fauteuil. Le côté sportif, on le retrouve. Il y a de l'intérêt là-dessus, quoi. Mais
c'est la question de la virilité, de la masculinité, voilà, qui ressort là-dedans, évidemment.
La compétition, surtout, quand même.
Compétition,
c'est du sport. Hein.
Ça ressort assez bien, c'est vrai. Voilà. Je veux quand même dire, il y a quelque chose d'un peu bien dans ce film.
Oui, tout n'est pas à jeter, quand même. Voilà.
La caution sport a parlé.
Oh. Je suis la caution sport
bah, non, oui. Non.
Private joke.
Ouais, private joke, on évite dans les podcasts, s'il vous plaît. On n'en parle pas, on n'en parle à personne. Don't Tell a Soul, c'est le nom du prochain film. Oh, quelle transition, incroyable. Film hors compétition, en avant-première. L'histoire de Joey et Matt qui se font courser par un garde de sécurité qui les gaule après un cambriolage. Pendant la course-poursuite, le vigile tombe dans un trou. Et là, les deux frères vont être hantés. Que faire de ce vigile au fond du trou?
Pas ça a l'air con comme ça, hein. Ça l'était.
Plot twist.
Oui.
C'est con parce qu'avec une idée comme ça, tu peux faire quand même plein de choses au final, quoi. C'est dommage.
Et tu en fais ça.
Ils ont fait plein de choses.
C'est vraiment le film le plus magique qu'on ait vu jusqu'à maintenant parce que ça continue. En fait, on est dans le trou, on continue de creuser perpétuellement ce trou tout au long. Tellement c'est ridicule. En fait, je me demande ce que fait Rainn Wilson là-dedans. Enfin, ce qu'ils font tous là-dedans. Et dès le début, c'est un peu ridicule quand on voit la musique qui est derrière la première poursuite. On a l'impression que c'est le film, le thriller de l'année. Genre, oh là là, attention, la méga grosse tension. En fait, non. Et c'est vraiment, c'est n'importe quoi. C'est un festival de n'importe quoi. Dès qu'on a les premières conversations entre le... Parce que du coup, dans les deux frères, il y en a un qui est gentil, le petit frère, et l'autre est méchant. Hein, c'est un gros rebelle, oulala.
Les deux frères, donc, interprétés par Jack Dylan Grazer et Fionn Whitehead. Voilà.
Et donc, le frère gentil tape la discute à Rainn Wilson, à Dwight, dans son trou. Et ils ont des dialogues très, très originaux sur voilà, la gentillesse qui l'emporte toujours parce que ça fait de toi un bon chrétien. Il peut être son papa, parce que voilà, papa il est mort, et puis il y a des questions de tu peux porter mon flingue ? Tu sais comment il est mon flingue ? Il est beau mon flingue, hein, parce que c'est aussi un très bon résumé de ce qu'est l'Amérique, ce film. C'est le rapport des Américains à leur flingue.
Tellement
d'amour envers leur flingue.
Et la religion.
En tout cas, Rainn Wilson nous l'a très bien vendu en disant c'est un film qui est rempli de twists. Alors oui, et ça part dans n'importe quoi.
Mais en fait, il y a deux films, j'ai l'impression. Il y a un premier film, il y a une première moitié où c'est du...
De l'enfermement,
quoi. C'est de l'enfermement, c'est du psychologique un peu. Ils sont là, ces deux gamins qui ont pris de l'argent parce que leur mère est malade aussi. Donc ils vont cambrioler une maison. Et que faire de ce mec qui est au fond du trou ? Est-ce que on le sauve, mais il peut nous dénoncer, ou est-ce qu'on le laisse, mais du coup on a ça sur la conscience ? Et ça, c'est un thème intéressant en lui-même. Par contre, à la moitié du film, il y a un twist. Et alors là,
Et
là, ça devient festival.
Mais on va en parler. On va en parler du twist parce que en fait,
on est obligé.
Ce qui est assez affreux, c'est que
si on peut éviter de spoiler, oh,
aussi on peut.
Mais du coup, spoiler alerte.
Oui, non, voilà, spoiler alerte. Alors, en fait. La trame telle qu'on la tenait là, avec cette espèce de vigile qui tombe dans un trou, qui reste là des jours, avec, il y a quand même le frère aîné, là, qui lui pisse à la gueule, quoi. Qui clairement se comporte comme la dernière des merdes, parce qu'il veut pas ce qu'il a, juste sous couvert que, mais si on le sort là, il va nous dénoncer, hein. Bon.
On va faire 20 ans de zonzon, il a dit.
T'as un film avec ça, déjà. Je veux dire, t'as tout à fait, rien n'empêche, même la manière dont le film se passe derrière, avec le gars qui sort du trou, qui peut prendre un des gamins en otage, qui peut avoir envie de se venger, qui peut avoir envie de les dénoncer aux flics. Tu tiens parfaitement un truc avec ça et tu peux aller là-dessus. Est-ce qu'on était obligé de rajouter qu'en plein milieu du film, on apprend que le gars qu'ils ont fait tomber dans le trou n'est pas un vigile, mais un mec qui a volé un uniforme et qui est en réalité un salopard qui vient de tuer toute sa famille.
En fait, le gars, c'est Russell Crowe, mais
Xavier Dupont de Ligonnès.
On l'a retrouvé.
Obligé de rajouter ça, quoi. Franchement, ça servait à rien de rajouter ça. Enfin, et donc, bon, à partir de là, je pense que c'est là où on a explosé rire deux fois. Et une fois, on s'est dit que les dialogues n'allaient pas nous sauver.
Mais disons qu'à partir de là, plus aucune réaction ne va, et c'est que
rien n'est vraisemblable
pour faire rebondir le scénario, parce que déjà avant, il commençait à y avoir des trucs douteux. Il y a des réactions dans une fête qui sont déjà qui
Ouais, il a tué un mec avec du gaz empoisonné. Ça, c'est du gaz empoisonné, mon mec.
Moi, c'est la première fois que j'ai rigolé. Je me dis, oh, c'est bon, les dialogues ont abandonné le navire.
Mais c'est ça, ce gaz empoisonné, plus symptomatique du film, qui a deux traitements. C'est-à-dire qu'il se prend vraiment, vraiment au sérieux et il a des moments où le film perd les. Il perd pied complètement, quoi, il lâche tout, quoi.
Mais la deuxième partie a des rebondissements de films nana ou de films du samedi, en fait, des trucs très très légers, mais avec un ton grave tout le temps, ça. Qui fait qu'on n'arrive pas à les prendre au sérieux une seule seconde.
Tant qu'on est dans les spoilers, quand même, on a cette mère qui est extrêmement malade, qui est extrêmement malade et qui se fait mal avec une canne.
Ça dépend.
Et qui débarque pour défoncer ce tueur, quoi.
En pleine forêt avec un fusil à lunettes.
Alors qu'on te montre bien la distance entre la maison et le puits.
Hein. Il faut y aller soit en vélo, soit en voiture, et elle y va avec une canne, quoi.
En 5 minutes.
En 5 minutes. C'est fantastique. C'est le film, c'est absolument pas ce qu'il veut faire, et il n'y a rien qui marche, quoi.
C'est compliqué. 1h24, hein, même pas 1h30, ça reste un film relativement court, mais il se passe tellement de trucs à la fin que. Du coup, on s'est pas endormi. Mais
c'est un bon nanar. Tu passes un moment génial sur ça. Moi, j'ai très envie que ce film sorte en salle. Hein.
Je pense pas que ça va. Universal, sortez-le au cinéma. Par contre, revoyez vos sous-titres parce qu'ils étaient bourrés de fautes.
Ouais, après, ça m'étonnerait parce que, pour le coup, à part un acteur qui était à peu près connu, t'as ce côté aussi où. Et même si des acteurs qui jouent pas très bien, c'est ça qui était rigolo. Après, c'est pas la faute des acteurs, c'est la faute du réel qui a très mal dirigé, mais ça faisait vraiment jouer une émotion.
C'est son premier film, le pauvre.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que t'en as un qui fait joue la colère, toi tu joues la mère malade. Et là, pourquoi c'était pathétique.
La mère malade qui demande tous les jours un soda sans sucre.
Bah écoute,
putain, prends-le tout seul, ton soda.
Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon fils ? Attention.
Oui. Ah, je croyais que t'allais
dire. Non, mais il y a des passages merveilleux. Il organise une fête. T'as une nana qui lui fait tiens, je t'attends. Il regarde son petit frère. Il fait celle-là, elle taille des pipes pour $20. C'est quasiment l'un des seuls autres personnages féminins du film.
C'est le rôle principal de Dunkerque et de se dire que il finit là-dedans. C'est triste.
Oui, ça arrive.
C'est triste.
Il a déjà beaucoup d'impôts.
Voilà. Faut bien vivre.
Christopher Nolan l'a trop bien payé la première fois.
Allez, on grandit un peu. On va à Philadelphie.
Déjà ?
Eh oui, déjà, le dernier film de la soirée. Sons of Philadelphia.
Avec Tom Hanks.
Non, si seulement. qui d'ailleurs en VO s'appelle The Sound of Philadelphia. Allez comprendre.
Franchement, je veux bien qu'on nous fasse une explication sur ça.
C'est sur les fils qui font de la musique. Et
De l'écrivain, réalisateur Jérémy Guez. D'après un roman, L'amour fraternel de Pete Dexter, est sorti prévu le 30 décembre 2020.
Bonne année,
super, vous vous régalez.
Ouais, ça commence bien 2021 au cinéma.
Voilà. On suit Peter, interprété par Matthias Schoenaert, qui est un membre de la mafia irlandaise et qui va essayer de recadrer son pote.
Cousin.
Michael.
Son cousin.
Frère, cousin, pote. Ouais, on ne sait pas trop.
Voisin.
Voilà, Michael, interprété par Joel Kinnaman. Voilà, et éviter un conflit avec la mafia italienne.
Joël qui fait mal.
Voilà. Film de mafieux, est-ce que ça vous a touché ce film ? Est-ce que vous l'avez bien aimé ?
Je tiens à dire que Thierry a bâillé très longuement, ça représente à peu près mon
avis sur le film. Le podcast aujourd'hui.
Ouais Thierry.
Voilà.
J'ai pas dormi.
Déjà c'est bien.
Mais
j'aurais peut-être dû.
Ben oui.
Alors moi déjà dès le début du film j'étais assez extérieur à tout ça, je veux dire très bas, c'est pas le genre de personnage pour lequel je vais avoir de l'empathie, donc du coup il m'en fallait beaucoup pour m'accrocher, et à partir du moment où j'ai eu l'impression de voir un ersatz de tout ce que je connais déjà dans le film noir de gangster, je me suis dit putain je m'en fous vivement que ça se termine, et à partir du moment où le film a commencé à mettre des flashbacks aussi pour me justifier tout le background et les ressentis de ces personnages, et qu'ils ne mènent strictement à rien ces flashbacks, ils ne racontent rien. Qui ne passe pas par le dialogue.
On raconte une enfance difficile où on voit le héros petit garçon qui perd sa sœur.
On la devine.
On donne de l'argent à Ryan Phillippe.
Constamment donné dans les dialogues. Hein. Tu te rappelles de ton père ? Tu te rappelles de ce qui arrivait à ta sœur ? Tu te rappelles de quand ton oncle a fait ça ? Alors, à ce moment-là, montrez-le ou dites-le, mais pas les deux, quoi.
Après, c'est le problème de l'adaptation d'un livre aussi.
C'est le problème de l'adaptation d'un livre. Mais du coup, elle, c'est toujours un peu le cul entre deux chaises, et c'est surtout, alors je sais pas si le bouquin est cliché à souhait, mais en tout cas, le film l'est, quoi. Et du coup, il n'y a pas grand-chose en fait qui relève d'un intérêt dans ce film. C'est un patchwork de plein de trucs qu'on connaît déjà, avec des gens qui sont pas spécialement très impliqués. Matthias Schoenaert, j'ai eu l'impression de devoir faire le même rôle, et ça m'agace parce que ce mec a tellement de potentiel que...
Il fait un peu la même tête tout le temps, hein.
Ouais, mais non, mais voilà. Alors, autant j'ai l'impression de devoir faire un rôle qu'il a déjà fait beaucoup trop de fois, mais autant là-dedans, oui, clairement, ils sont tous en mode mono-expression, vivement que ça se termine. Alors, je sais pas si c'est la direction qui veut ça, t'as l'impression qu'on leur a donné des feuilles d'archétype, pas des feuilles de perso, quoi.
Ah ouais, tout le monde, on a Joel Kinnaman qui joue le mafieux en roue libre qui a trop de pouvoir, alors du coup il est complètement taré, il demande des trucs entre méchants à tout le monde. On a la fille de service, on a tout ce qu'il faut. Et le héros impliqué qui a l'air grave, parce que
la
quand
fille
même,
de
la
service,
vie est grave.
On va y venir parce que ça c'est encore plus honteux que le reste, oui. Mais bon, vas-y.
Et j'ai trouvé que les deux personnages ça faisait vraiment Joe Pesci et Robert De Niro mais en version Wish, mais vraiment.
M'attendez pas à celle-là.
Ça sera pas la quote de l'affiche, ça.
Parce que t'as un gars qui est vénère tout le temps, qui est toujours dans l'excès, puis l'autre qui est beaucoup plus calme, mais ça reste un connard, mais qui est beaucoup plus calme.
Rapproche-toi du micro, Marwan. Voilà. Non. Quand tu parles.
Tu dis Joe Pesci, je pense que, en plus, tout le film tourne autour de la boxe, avec un setup énorme qui n'est jamais, du coup, développé.
C'est dommage.
Et, Stallone, hein.
Tu sais, ils ont beau tous se battre, hein. Joe Pesci, il débarque, il fout des pieds bouches à tout le monde, hein. Je veux dire, donc, on n'invoque pas le diable quand tu y penses.
C'est sûr.
Et puis, c'est avec les personnages qui étaient Wish aussi. Parce que tout le film, c'est-à-dire qu'on parle d'un restaurant qui brûle, bah, on voit le restaurant après qu'il est brûlé. Les fusillades entre les
sans
Italiens
fusil.
et les Irlandais, elles sont rarement montrées, sauf une fois où c'est deux pauvres mecs à moto qui cartent deux balles.
Et qu'on le voit même pas tirer.
Et une scène d'exécution où on voit trois personnes dans une salle, quoi. C'est quand même très très triste. Même à regarder, c'est très triste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène d'action pour nous réveiller de temps en temps. C'est le calme plat, littéralement.
Il
ne devait
pas y avoir énormément de budget.
Si, il y a peut-être un combat de boxe, mais qui
sert à rien.
Qui sert à rien, qui est insipide, où il n'y a aucun coup qui est ressenti. C'est
on a l'impression qu'il se... Pop, qui se mettent des petites tapes comme ça. Pop, pop, pop. Non, mais c'est ça, c'est vraiment le calme plat, mais c'est ce truc du film de mafia où on ne fait qu'entendre parler de ce qui se passe et où du coup on reste très extérieur et on attend que Matthias Schoenaert s'implique parce que tout au long du film, c'est ça, c'est la bande rivale qui lui dit tiens, on va te sauver, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose. Et Matthias est là, ouais, non, c'est mon cousin quand même, attention. Et bah justement, on allait parler de Micah Monroe, donc qui joue la meuf de service. En gros, c'est quelqu'un qui était dans le passé du héros, qui revient des années plus tard. Et déjà, dès sa première apparition, on a Matthias Schoenaert qui est en effaré, ou du moins qui est en admiration devant elle. Waouh! Et on comprend tout de suite à quoi elle va servir.
Et elle ajoute aucun enjeu dramatique en plus de ça. Oui, je veux dire, la fonction qu'elle est censée apporter,
de base,
c'est
pas énormément d'enjeu dramatique.
Je dois m'enfuir. Enfin, c'est la fonction du ok, j'ai une oasis par là, je vais m'enfuir avec elle. Et même ça, tu le retires, c'est le même film, quoi. Donc, elle est pas du tout exploitée. C'est.
Puis, putain,
mais
pareil,
t'es pas de
nana
dans ces films, c'est pour ça, quoi.
Elle dit, je veux pas être impliquée là-dedans, puis finalement, bah, un peu quand même.
Elle a un frère qui est un peu impliqué, malheureusement pour elle.
Oups.
Après, le problème du récit, c'est que, en général, quand tu veux que les gens ne soient pas ennuyés, c'est de faire des montées. Alors, être en crescendo, essayer de créer un intérêt, comment dire ça, des obstacles, et après, il y a une sorte de choc, et ça redescend, et ça remonte. En fait, c'est des vagues.
Marwan, le scénariste, c'est
non,
avec
mais,
nous ce soir.
Non, mais, là,
non, mais heureusement qu'il nous explique parce que oui. Parce que c'est pas du tout ça.
C'est ça. Là c'est le calme plat. J'ai l'impression que le film était mort, tu vois.
C'est encéphalogramme plat.
Ce qui est dommage, ouais. Parce que du coup, le matériel de base, le livre Un amour fraternel, que j'ai presque fini de lire. Peine.
Bravo.
Alors, pour le coup, il emprunte pas grand chose du livre, à part. Oui, le côté de gang mafieux, les prénoms des personnages, les flashbacks, qui du coup servent, enfin dans le livre ok parce qu'ils sont au début du livre donc une fois qu'on les a lus c'est bon, mais du coup dans le film ne servent à rien du tout. Mmh. Et ouais, c'est dommage parce qu'il se passe il se passe rien premièrement, et deuxièmement c'est juste un film de gangster lambda, donc on sait exactement ce qui va se passer, à quel moment et comment ça va finir, donc une fois qu'on l'a fini on fait ok, tout ça pour ça.
C'est triste.
Non, puis je vais revenir sur Joel Kinnaman aussi, qui est déjà pas forcément un acteur que j'apprécie beaucoup, aussi parce qu'il a beaucoup joué dans des trucs pas top. On va pas parler de Suicide Squad, hein, mais après il a beaucoup fait des séries, Alter
Robocop,
Carbon,
Robocop c'était
il est
génial. Non, je découvre le premier, celui sans lui en fait.
Oui, voilà. Mais Kinnaman, en fait, c'est vraiment l'archétype du mafieux qui, même après s'être pris une balle, se dit tiens, je vais péter la gueule de tout le monde, et qui du coup pète des plombs tout le temps. Sauf que tu le vois péter un plomb une fois, tu le vois péter un plomb deux fois, à un moment donné, t'en as un peu marre, quoi.
Et ça, puis c'est... en plus c'est des plans gratuits quoi.
C'est même le mec est là, oh putain mon cheval, oh là.
On lui dit ça, c'est ridicule. Ne fais pas ça, ça va pas marcher. Ah ça marche pas. Ben oui, mais pourquoi tu veux tuer tout le monde maintenant?
D'abord il est méchant avec le cheval, puis après il est méchant avec le monsieur qui soigne le cheval, puis après il est méchant avec le monsieur qui est avec le monsieur qui soigne le cheval.
Et puis une pensée pour ce pauvre Carlos, donc le gars qui tient la salle de gym, qui a l'air peut-être tout gentil, il entraîne un boxeur et oui. Tout le temps, tous les soirs, t'as ce mec là. Hey, je vais éclater ton boxeur. J'ai ramené un de mes gars. Là.
Mon poulain est meilleur que le tien.
Non, mais non, mais fous-nous la paix. Non, mais il va se battre. Et du coup, le boxeur défonce son gars et il fait. Je t'en ramène un demain, hein, parce que bon,
celui-là, c'était une merde. À quoi ça sert en plus? Mais pourquoi il fait ça?
Et à quoi ça sert de voir Matthias Schoenaert lever de la fonte tout le temps s'il défonce pas des tatanes, enfin s'il défonce pas des bouches à un moment, quoi. Je veux dire, c'est.
Il y a peut-être des scènes où il est homme de main et qui sont plus là.
C'est vrai que le film peut-être charcuté de plein de
peut-être.
Trucs aussi, ouais.
Ouais. Aïe. Bon, bref. Giant Bean, Lonely. Ça c'est un des mauvais. Mais alors, c'est ça qui est terrible, c'est que là, on a vu quatre films qui sont pas vraiment mémorables. Si le premier, Holler, ça allait, mais les trois derniers, là,
je trouve quand même que Dante le sol est très mémorable.
Malgré lui.
Ah oui, malgré lui.
ce qui est dommage, c'est de se dire Sons of Philadelphia, c'est un réalisateur français avec une équipe majoritairement française, de se dire on fait un film aux États-Unis. On essaie de revisiter un genre qui est déjà vu et revu, et non, on s'en sort pas, quoi. Ouais. C'est...
Non, c'est triste. Original, hélas. Et je pense que le 30 décembre, vous aurez mieux à faire
comme les trois quarts des films qui sortent le 30 décembre, enfin en fin d'année de toute façon.
Alors l'année dernière, il y avait bien eu chez les Malawa, Cats et Charlie's Angel, je te permets pas, ouais. C'est notre épisode préféré avec Marwan, on l'écoute tous les soirs et on se rappelle à quel point on a kiffé ce moment.
C'était incroyable, j'y pense encore.
C'est
la jambe de Judy
c'est
Dench.
L'étape entre la sortie au cinéma et la VOD direct, tu sais. C'est
Ian McKellen qui lape du lait.
Ouais. Bref. Pardon, il y a quelqu'un qui trifouille quelque chose. Allez, c'était notre retour sur les films projetés ce mardi 8 septembre. Avant de se quitter, est-ce que vous avez des attentes pour demain, mercredi ?
Wendy.
Au point où on en est, j'attends plus rien.
Ouais, Margot, enfin, Wendy. Ouais.
Wendy, absolument.
Ah, moi, Wendy, en fait, je l'ai déjà vu.
Mais comment tu l'as vu, Gabin ?
Pas légalement, pardon. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de le revoir
sur
grand écran.
Ah,
au cinéma.
Très, très bien.
Et allez le voir quand ça sortira en décembre. Merci.
Moi, je sais pas.
Vous savez pas.
S'il n'oublie pas son pass.
MASH de Robert Altman.
Ouais, je pense que je vais aller voir MASH aussi. Ouais.
Une valeur sûre.
Les
normalement.
J'avais vu, mais c'est trop
drôle. Si c'est pour venir à Deauville pour faire des rétrospectives.
Bah ouais, pourquoi,
pourquoi
là,
pas.
Bah
pourquoi
écoute,
pas.
Oui. Non.
Moi, franchement, là, aujourd'hui, je pense qu'aller voir d'autres choses à côté, oui. ça aurait été pas mal.
Ça limite la casse.
Ça aurait été pas mal.
Et moi, c'est le documentaire sur le Friedkin, quoi. Sur son
enfin,
film.
Tu vas enfin
ouais, ah, le voir. C'est le jour J.
On a rejoué en plus avec le fait que le documentaire est peut-être pas bien dans la journée, donc Marwan est là en mode putain, je sais toujours pas.
Ah, si, si, je sais très bien, c'est bon.
Alors, c'est quoi du coup ?
C'est très bien.
Moi, celui que j'attends, et parce que c'est de la fascination morbide, hein.
C'est résistance.
C'est résistance.
C'est pas pour Clémence Poésie.
Ça, c'est avec Jesse Eisenberg en mime Marceau, ça t'a
acheté. Mais c'est ça.
Il a spoilé.
Savoir que le premier jour, vous aviez Thomas, mais qui était mais rougeâtre devant la bande-annonce et qui, mais vraiment, il avait les décibels ultra aigus dans la voix. Il était, ah, c'est super rigolo.
Au début, non, mais attends, je vois les images du film avec Jesse Eisenberg et un béret et des drapeaux nazis derrière. Je me dis, waouh!
C'est chaud cette suite insaisissable.
Et je vois la bande-annonce et j'ai Assassin's Creed Seconde Guerre mondiale. Moi, je veux voir
On va vivre une belle séance.
Demain, ça va être merveilleux.
Quel bonheur.
Ah, j'espère pouvoir rentrer, c'est une séance étoile. Waouh!
Petite pensée aux gens qui paient 15 euros pour voir ça.
Ouf! Putain, ceux qui payaient 15 euros pour Sons of Philadelphia et Bad Education hier soir, les pauvres. Oh. Tu m'étonnes qu'ils applaudissent. Ils se rassurent comme ils peuvent.
Bon, là, faut dire que ce soir, ça a été court.
C'était une séance étoile, Goodman ?
Oui, non.
Non,
c'était l'après-midi.
T'imagines ?
Non,
mais c'était quand même les applaudissements les plus longs, hein, faut le rappeler.
Ah, bah oui.
Je crois que les gens se sont rattrapés le lendemain pour le film. J'ai plus le nom du film exactement, je sais. Pour les deux Alfred, les gens se sont rattrapés.
Ah, bah, c'était le même jour.
C'était le lendemain.
Non,
c'était le même jour. C'était après. Ils se sont rattrapés, je crois, pour. Enfin bon.
C'était le point applaudissement.
Voilà. Après, on n'a pas chronométré non plus. Puis la moitié des gens se barraient, dont nous. Donc, du coup,
vous pouvez télécharger l'application applaudimètre.deauville.org.
Si seulement.
Sponsorisé par Clac.
Ah, pourquoi pas. On va proposer un partenariat.
On a les partenariats qu'on mérite. En plus, on sera obligé d'en dire du bien tout le temps. Ça va être super.
Aïe, ouais, bon, du coup.
Enfin, tout le temps, non, une semaine par an, quoi, du coup.
Merci Gabin pour cette super idée et pour cette participation.
De rien.
Merci Margot.
Mais de rien.
Bonjour. Marwan.
Ah bah merci.
Incroyable, Thierry.
Ah oui, merci.
Et Valentin.
Merci tout pareil.
Et moi-même, parce que je me remercie aussi, j'aime bien ça.
Merci.
Bravo.
C'était Certains Lamas Deauville, un épisode spécial de Certains Lamas Show. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour soutenir l'émission, abonnez-vous et laissez un commentaire sur votre appli de podcast préférée. Vous pouvez également nous retrouver et nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @clacpodcast, C-L-A-A-C podcast. À demain pour un nouvel épisode d'Ovilé. Bisous, bisous, bisous.
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 Ciao.
J'en profite pour faire du son seul.
12 sur 10.
Bon, allez.